بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيع الورى وخير الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على من كان إذا تكلم كفى، وإذا صاحب صفى، وإذا عاهد وفى، وسميته حبيبا ومحبوبا ومصطفى، وكتبت اسمه الشريف على ساقي العرش أحرفا، سيد العرب والعجم، وإمام مكة والمدينة والحرم، زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة واحتراما. Chers frères, chers sœurs, dans la continuité de nos conférences sur divers sujets qui nous intéressent tout particulièrement, aujourd'hui, on aborde avec vous un sujet épineux, important, sensible, qui est la femme entre religion et culture. Donc la femme, longtemps considérée comme un objet de désir et une créature sans droit, a souffert et souffre toujours d'une injustice qui ne peut aucunement être attribuée à Dieu ou à la religion de Dieu, mais aux hommes et à leurs dérives et comportements indignes. L'islam fut à l'origine de la première charte des droits de l'homme et du respect de la nature. Première charte des droits de l'homme et du respect de la nature. L'avènement de l'islam a permis tout particulièrement à la femme en Arabie, il y a déjà plus de 1400 ans, pour la première fois dans l'histoire du monde ancien, d'avoir des droits équivalents à ceux de l'homme. Elle a pu hériter, témoigner devant les tribunaux, choisir son mari, voter, Bayat al-Nisa, par exemple, dans Surat al-Mumtahina, ou encore travailler. Les femmes travaillaient à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de ses compagnons. On va le voir. On a parlé de vote, rappelant que, par exemple, en France, le vote de la femme ne fut permis qu'en 1945. 1945. Avant l'islam, les Arabes enterraient leurs filles vivantes par crainte d'un déshonneur probable dans le futur. La femme faisait partie des objets qu'on héritait après la mort du mari ou du maître. Ça, c'était la situation avant l'islam. Et idoun al-banat, wa'd al-banat. Le Coran a instauré l'égalité et a précisé à l'homme et à la femme leurs droits et leurs devoirs en fonction de la prédisposition naturelle de chacun et de sa constitution. Il a défini pour la femme sa part dans l'héritage, il lui a permis de contribuer dans l'évolution de la société en lui permettant de témoigner, de voter, de travailler ou encore d'accepter ou refuser un mariage proposé. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Il a basé la relation entre l'homme et la femme sur le respect mutuel et l'amour en Dieu. Al-mahabbatu fillah. Pour la relation conjugale, Dieu dit dans le Coran, et parmi ses signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elle, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il dit, et comportez-vous convenablement envers elle. C'est-à-dire, les hommes doivent se comporter convenablement avec leurs femmes. Sourate An-Nisa, verset 19. L'islam a ordonné à l'homme de prendre le plus grand soin de la femme et a même lié le bon comportement de l'homme avec son épouse à la foi. Abu Huraira, la foi, la croyance. Abu Huraira rapporte que le prophète sallam a dit « Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement à l'égard de leurs épouses. « Ana khayrukum, khayrukum, khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahlihi. » Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement à l'égard de leurs épouses. Le prophète a donné l'exemple par lui-même, en se montrant doux, affectueux et attentionné avec ses siens. Il avait fait un jour, avec son épouse Aïcha, que Dieu l'agrée, une course à pied qu'elle avait gagnée. Plus tard, ayant pris du poids, elle perdit, ce qui fit dire au prophète, nous sommes à égalité à présent. Lorsqu'elle buvait d'un récipient, il le prenait et en buvait en mettant sa bouche au même endroit qu'elle. Lorsqu'elle mangeait d'un récipient, il mangeait du même endroit, ou à proximité. Il reposait sa tête sur ses genoux et pouvait même réciter le Coran alors qu'il était dans cette position. Aïcha, Al-Hassan et Abu Saïd, que Dieu les agrée tous et toutes, rapportent, avec quelques variantes dans leur description, que dans sa maison, le prophète Slama était au service des siens. Il triait et raccommoder ses vêtements, trayer sa chèvre, arranger ses souliers, se charger de ses affaires personnelles, aider à nettoyer la maison, attacher le chameau et lui donner du fourrage. Il mangeait avec les serviteurs, préparait la pâte avec eux et faisait les courses. Voyez-vous, le prophète Leslama était faisait partie du tra faisait le travail de la maison, faisait en pratique le ménage. Hein, donc, voyez-vous, les hommes aujourd'hui qui mettent un pied sur un autre et qui attendent que ça se passe, c'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. Ce que je viens de réciter est tiré du Shifa du Qadaiyat de Sibta, chapitre 2, entre autres. Hein, c'est riche d'enseignements et de méditations. Donc, le prophète Leslama, il était au service des siens, il triait et raccommodait ses vêtements, il trayait sa chèvre, il arrangeait ses souliers, se chargeait de ses affaires personnelles, aidait à nettoyer la maison, attachait le chameau, il lui donnait du fourrage et mangeait avec les serviteurs, il préparait la pâte avec eux et faisait les courses. Donc, je vous invite à méditer profondément dans ce que je viens de lire. L'islam aussi protège la femme d'elle-même et des abus de l'homme en instaurant ce qu'on appelle nafaqa, pension alimentaire, ce qui est une prise en charge matérielle en cas de divorce. Au niveau politique, on assiste à la première bay'a, pacte d'allégeance des femmes, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cité dans la sourate Al-Mumtahina. Au niveau social, on assiste aux premières femmes qui travaillent, institutrices, comme Aïcha, qui enseignait aux hommes le fiqh, le droit, une matière des plus sensibles. Infirmière, comptable ou contrôleuse. Donc Aïcha a enseigné, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à bien des hommes la religion et la jurisprudence. Et pour votre information, Aïcha est la deuxième rapporteure de hadith en islam, après Abu Huraira. C'est celle qui a rapporté le plus de hadith après Abu Huraira, hein, pour bien le savoir. Et presque tout le fiqh en intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela, on l'a presque tout, on l'a reçu grâce au rapport de Aïcha, que Dieu l'agrée. À l'époque du deuxième calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab, il y avait par exemple une femme qui contrôlait les balances au marché pour lutter contre les fraudes, par exemple. Il y avait même des femmes qui avaient fait des expéditions, c'est-à-dire de la guerre sainte avec le prophète, là, seulement. À travers les textes sacrés de la tradition musulmane, on peut confirmer que la femme en islam a un statut d'honneur particulier. Elle est la source de la vie et c'est elle qui éduque la génération. Elle apparaît ainsi comme le noyau de la société. Au fil des générations des musulmans, malheureusement, on va assister à autre chose. Mais déjà, dans l'Empire islamique de l'Orient, comme dans celui de l'Andalousie, la femme a joué toujours un rôle d'égal à l'homme, et ce dans tous les domaines, et même aux plus hautes sphères de l'État islamique, sciences, musique, politique, littérature ou spiritualité. Plusieurs figures féminines de l'islam ont marqué l'histoire du monde par leur grande science, leur intelligence, leur courage, leur sincérité ou leur ferveur spirituelle. Dans le soufisme, les maîtres considèrent la femme comme une lumière de Dieu et comme l'être le plus favorable et perméable aux épiphanies de Dieu. L'exemple de l'amour pur pour Dieu donné par la sainte pieuse Rabi'a al-Adawiyya reste un tableau inimitable en littérature comme en images. On connaît Rabi'a al-Adawiyya avec son amour pur pour Allah, pour Dieu, et toute la littérature qu'il nous a laissée à ce niveau-là, et il a éduqué des générations. Elle avait des disciples, hommes et femmes. Et on a plusieurs savants femmes. On a eu plusieurs savants femmes dans l'Empire islamique, dans l'histoire de l'islam. Malheureusement, il y a 2 siècles, à peu près, voire plus, on va assister à deux phénomènes parallèles, mais diamétralement opposés. Une prise de conscience de l'Occident pour une valorisation de la femme et de son rôle. Au début du siècle dernier, par exemple, des lois ont été votées en Occident pour la première fois pour permettre à la femme de voter. Exemple en France en 1945. Et une chute civilisationnelle de l'autre côté, du monde musulman, qui priva la femme de beaucoup de libertés et de beaucoup de ses droits pourtant attestés par l'islam et pratiqués pendant des siècles. Ce phénomène dangereux, dans beaucoup de pays de l'islam, est lié certainement à l'ignorance des principes de l'islam, entre autres, et à la radicalisation dogmatique due à l'avènement du mouvement salafite wahhabite dès le XVIIIe siècle, mouvement qui était propulsé, favorisé, financé par l'Empire britannique et ensuite par le pétrodollar. Des questions évidentes se posent. Comment cette ignorance et cette radicalisation se sont-elles survenues? Comment le monde musulman est passé d'un leader et du créateur des droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage, encouragée par le prophète sallam lui-même et ses compagnons, l'égalité, comme il a dit Omar, quand est-ce que vous, comment vous vous permettez de rendre les gens esclaves alors que leur mère les a enfantés libres? L'égalité, certes, en islam, tous les gens naissent égaux et libres. La fraternité, le droit de la femme instauré par l'islam. Comment on est arrivé à deux ces valeurs essentielles, importantes en islam, structurantes, au statut caricatural de l'homme qui bat sa femme ou sa sœur ou qui méprise la femme. C'est incroyable. Comment le monde musulman est-il arrivé à voir le taux d'analphabétisation le plus grand, alors que le premier mot qui a été révélé au prophète de l'islam est Iqra, li, li. Et que la science est une composante essentielle des principes mêmes de l'islam. La science est une obligation pour chaque musulman, comme dit le prophète. On ne peut pas non plus vanter le modèle occidental actuel de façon exagérée, car il a ses failles et ses torts. L'image des femmes en Occident, ici, est souvent, dans ce modèle, celle d'un objet de désir ou d'un catalyseur commercial, ou encore d'un outil de marketing. On le voit dans les revues, on le voit dans les films, pour avoir la meilleure audience, il faut des femmes dénudées, etc. Et le corps de la femme est malheureusement exploité, voire vendu pour le profit, par des hommes qui ont un seul but et un seul idole, l'argent. Donc c'est ce qu'on peut dire en gros, hein, de façon résumée, synthétique, sur la femme entre religion et culture. Vous pouvez aussi vous documenter sur l'histoire de l'islam pour savoir un peu quel était le rôle de la femme en islam. Vous pouvez aussi vous documenter sur les textes sacrés de l'islam, les textes fondateurs, le Coran et la Sunna, pour savoir que dans le Coran est riche. Le Coran a même réservé une sourate entière qui s'appelle la sourate des femmes, sourate al-Nisa, pour les femmes. Femmes constituent en islam la moitié de la société. C'est un trésor. Elle est le noyau même de l'humanité, la sœur, la mère, l'épouse. Elle est l'école première des futures générations. Al-Ummu Madrasatun. Pour cela que le prophète a dit à celui qui est venu demander quels sont les gens prioritaires de qui je dois prendre soin, il a dit ta mère, puis il a dit qui ta mère, puis il a dit qui ta mère. Donc voilà, donc la mère passe avant tout le monde. C'est elle qui enfante, c'est elle qui est enceinte pendant 9 mois. Qui après allaite, qui après souffre, etc., qui t'aime plus que n'importe qui au monde. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné des égards, des convenances et un comportement des plus convenables vis-à-vis d'elle. Il a même interdit le ouf. Hein. En islam, on ne peut pas dire ouf à sa maman ou à son papa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les femmes sont les sœurs germaines des hommes ». Et selon Abdullah ibn Amr, al-Nisa ou Shaqaq al-Rijal. Et selon Abdullah ibn Amr, ibn al-As, le prophète s'est dit, la plus grande et la plus bénie joie de la vie est la femme vertueuse. Et il a dit aussi, ceux qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont les meilleurs caractères et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont bons envers leur épouse. Donc effectivement, ce qu'on vient de dire est très important. Et Dieu a toujours dit, dans le Coran, on trouve les musulmans et les musulmanes, les croyants, les croyantes, les obéissantes, etc. Et donc, les invocateurs, les invocatrices. Donc, comme quoi, la femme est associée à chaque chose, qu'elle soit culturelle, sociale, culturelle, etc., selon la prédisposition, selon la capacité de chacun, etc. On a vu dans les anciens cours que la révélation est venue au secours de Aïcha, épouse du prophète Lesema, révélant son innocence dans la sourate La Lumière, verset 11-21, alors qu'elle a été calomniée outrageusement. Au secours de Khawla bintou Ta'laba, qui craignait d'être définitivement séparée de son mari. Et Dieu a révélé du Coran, hein, qui parle de cette femme en disant dans la sourate 58, verset 1, Dieu a entendu les dires de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux et qui se plaignait à Dieu. Dieu a entendu votre dialogue, Dieu étant celui qui entend et voit tout. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Et aussi un jour, alors que le deuxième calife Omar s'apprêtait à décréter une loi limitant et fixant la dot, le mahr, de la mariée, qui trouvait de plus en plus cher, hein, les gens commençaient à un peu à exagérer dans les dots, une femme au milieu de l'assemblée, donc pour voir que les femmes assistaient aux assemblées, hein, c'était pas des assemblées strictement masculines. Dans la prière du vendredi, dans le prêche du vendredi, il y avait les hommes et les femmes. Donc une femme s'est dressée comme ça au milieu de l'assemblée, elle se lève et conteste ses décisions devant tout le monde, devant les hommes et devant les femmes. Et il dit, en argumentant son opposition, et que faites-vous du verset? Du verset de la sourate 4, verset de la sourate 4, verset 20 de la sourate 4, pardon. Et que vous avez donné à l'une un quintard, n'en prenez rien. Le calife a dit alors, devant tout le monde, la femme, cette femme a raison, et Omar s'est trompé. Et de ce fait, il a annulé sa décision. On peut citer aussi utilement la place qu'a réservée le Coran à certaines femmes, comme Marie, Mariam. Ce fut le nom même de toute une sourate, la sourate Mariam. Une sourate dans le Coran, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Maryam. Le Coran a honoré Maryam. Elle est la plus pure des créatures. Le prophète Salama a dit à propos de Maryam, Kamula min al-rijali kathir wa lam yakmul min al-nisa illa arba. Il a dit qu'il y a beaucoup de personnages masculins qui ont atteint la perfection, donc dont les prophètes essentiellement, et très peu de femmes ont atteint la perfection. Et la cité parmi les femmes qui ont atteint cette perfection complète et parfaite, Marie, Maryam, bintu Imran. Donc, par exemple, dans le Coran, je cite quelques versets, il y en a plein sur Sayyidatuna Maryam, alayhi salam, que la paix soit sur elle. Et lorsque les anges dirent, oh Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Et dans un autre verset, donc ça c'est le verset 42 de la sourate 3, c'est ainsi que la mère de Jésus, paix sur eux, devint pour les Arabes et les musulmans un modèle de pureté, de dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle était parmi les quatre femmes les plus parfaites du monde. On cite aussi parmi les femmes vertueuses citées, qui sont considérées comme parfaites, Asiya, femme du pharaon, qui est citée aussi dans le Coran. Par exemple, dans la Sourate 66, verset 11, Dieu dit à son propos, Dieu fit un exemple de ceux qui ont cru la femme du Pharaon, quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis, sauve-moi du Pharaon et de ses agissements, et sauve-moi de la gente injustice. La mère de Marie, hein, on cite aussi la mère de Marie, Hanna, selon quelques commentateurs. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Lorsqu'elle l'eut mise au monde, il dit « Seigneur, je l'ai mise femelle. Et Dieu est plus averti de ce qu'elle a mis et le mâle n'est pas comme la femelle. Je l'ai nommée Marie, Myriam, et je la mets sous ta production. » Sous ta protection ainsi que sa progéniture contre le démon lapidé. Je l'ai nommée Marie, Maryam, et je la mets sous ta protection ainsi que sa progéniture contre le démon lapidé. C'est pour ça que Marie n'est pas touchée, ni elle ni son fils, par le démon. Son fils Jésus, paix et salut sur lui. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Zacharia, que fallait à Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, oh Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Sourate 3, verset 37. On cite aussi les femmes citées dans le Coran, Balqis, la reine de Saba. C'était la femme sage et réfléchie dont les versets exposèrent les phrases ou les phases de sa conversion. Et on fait l'éloge de sa haute compétence dans l'administration de son peuple. Dieu exalté dit à propos de cette femme, tout à fait extraordinaire, j'ai trouvé qu'ils avaient pour roi une femme. Donc là, c'est le Houdhoud, l'oiseau qui parle, qui rapporte à Suleyman, à Salomon, ce qu'il a vu. J'ai trouvé qu'ils avaient pour roi une femme, qu'elle avait été dotée de toutes sortes d'avantages et qu'elle avait un trône superbe. Et il dit alors, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Elle dit alors, donc là c'est plus tard, quand elle va se convertir grâce à Salomon. Elle dit alors, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Salomon, Suleyman, à Dieu, le Seigneur et Maître des univers. On cite aussi l'épouse d'Abraham, qui citait dans le Coran. Elle a eu le prophète Isaac à l'âge de vieillesse et alors qu'elle n'enfantait pas. Donc Dieu dit à ce propos dans le Coran, sa femme était debout et elle rit. Alors nous lui en annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Nura et Ishaq et Yaqub. Elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent, t'étends-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Et on cite aussi l'épouse de Zacharie. Dieu exalté a dit en citant Zacharie, je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Voyez-vous, on converge avec les gens du livre dans pas mal de choses, dans pas mal d'histoires. On a une histoire commune. Et là, on voit que la femme a tout son rôle, hein, qu'elle est citée dans les textes sacrés du Coran, dans la Sunna, qu'elle a joué un rôle à travers l'histoire de l'islam. Dès l'avènement de l'islam, elle a eu tous ses droits, l'héritage, le travail, le choix d'un mari. Elle était l'égale de l'homme. Elle était aux côtés de l'homme. Il y a la fraternité. L'islam a remplacé les inégalités par la fraternité, par l'égalité, par l'équité, l'équité de comportement. On a vu que la femme savante, hein, qui apprenait, qui était l'institutrice, qui apprenait aux hommes, comme Aïcha, comme d'autres savantes dans l'histoire de l'islam, hein, des savantes qui ont appris le Coran par cœur, qui ont appris la Sunna par cœur et qui donnaient des fatwas. On a vu aussi, donc, à l'époque du prophète Islam lui-même, comment les femmes demandaient au prophète Islam, questionnaient le prophète Islam sur leur religion. Hein, parce qu'il n'y a pas de honte dans la religion. Donc ils venaient au prophète Islam, ils le questionnaient, ils sortaient à la mosquée. Ils sortaient faire leur prière, écouter la science utile, sans aucun problème. On a vu la femme à l'époque de Omar ibn al-Khattab, qui l'a interpellé, qui l'a arrêté. Hein, quand il parlait de dot, il l'a arrêté devant l'assemblée des hommes et des femmes, et qui lui a donné raison. On a vu que la femme pouvait travailler. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme on l'a dit, c'est un problème culturel, c'est un problème social, c'est un problème d'ignorance des préceptes de l'islam, c'est un problème de chute civilisationnelle, et ce n'est point un problème de texte. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين